Bonsoir, c'est le sigle qui inquiète les entreprises. RGPD, Règlement Général de Protection des Données. Mise en application le 25 mai, c'est-à-dire dans 100 jours, 3 mois, c'est demain, le compte à rebours est lancé. L'idée, c'est que les entreprises, au moment où elles vont collecter des données, eh bien, devront répondre à un certain nombre de précautions vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leurs clients. Et peu sont prêtes. Attention aux lourdes sanctions. Alors, au-delà de cette impréparation, ce qu'il faut dire, c'est que cette nouvelle contrainte, elle s'applique à l'échelle du continent européen. Et c'est peut-être aussi une opportunité, hein, justement, pour une collecte de data plus responsable, un enjeu de souveraineté. Alors, l'Europe remet-elle la main sur ces données ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et comme tous les soirs, les meilleurs experts, les meilleurs acteurs du dossier dans les décodeurs de l'écho, il y a Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de la CNIL, le régulateur justement, qui va être aux avant-postes justement de ce RGPD. Caroline Goulard, présidente de DataWise, une entreprise spécialisée dans la visualisation, l'interaction de données, l'usage des données. L'avocat Jean-Baptiste Souffron dans le cabinet FWPA et ex-secrétaire général du Conseil national du numérique. Cécile Lepape, directrice technique de CoachBase, hein, qui accompagne ses clients dans la RGPD, donc, notamment La Poste, Criteo, Leroy Merlin. Et puis Henri Dagrin, le délégué général du CIGREF, le club informatique des grandes entreprises françaises, réseau de grandes entreprises, de grandes administrations également. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 25 mai, je vous le disais, dans 100 jours, dans 3 mois? Isabelle Falque-Pierrotin, qu'est-ce que ce nouveau règlement impose aux entreprises, donc, dans 3 mois?
Alors, ce fameux RGPD, avec un sigle bien complexe, change en fait l'environnement de régulation pour les entreprises. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des contrôles a priori du régulateur, il y a en fait un allègement considérable de ces contrôles a priori, et ceci est remplacé par une responsabilisation accrue des entreprises à travers toute une série d'outils qu'elles doivent développer et mettre en interne. Et puis effectivement, comme vous l'avez mentionné, un niveau de sanction qui est ajusté, qui est renforcé et qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial.
4% du chiffre d'affaires mondial, 20 millions d'euros. Voilà. Alors vous nous direz dans un instant si vous ferez preuve de sévérité dès le 25 mai ou de tolérance, plutôt le deuxième cas justement, compte tenu du degré d'impréparation des entreprises. Cécile Lepape, je le disais, vous travaillez d'ores et déjà avec des grandes entreprises hein, qui ont anticipé. Oui, les grandes entreprises, parce que c'est vrai que les grandes entreprises, elles ont les moyens de le faire. Les PME un petit peu moins. On le verra notamment justement comment vous les accompagnez, vous, à la CNIL. Avant de collecter des données personnelles, les entreprises, je le disais, elles devront mettre un certain nombre de précautions. Lesquelles, justement ?
Alors, les précautions sont de nature très, très variée, parce qu'en effet, les données sont ingérées depuis aujourd'hui des années, oui, avec toute la transformation digitale qu'on connaît, avec les interactions de plus en plus fréquentes des utilisateurs avec les systèmes. Donc les données sont déjà là. La première des choses à faire, c'est mais quelles sont les données qu'on collecte ? Donc déjà, on accompagne nos clients pour découvrir ces données. Parfois, elles gisent dans des entrepôts. Eh oui. Plus personne ne sait à quoi elles servent. Et dans la réglementation, il y a l'obligation de connaître ces données. Peut-être c'est aussi l'occasion de faire le grand nettoyage de printemps. Et derrière, pas seulement de se préoccuper uniquement de la sécurité, mais de retrouver le contrôle de ces données pour les valoriser. Oui. Et derrière, changer les expériences.
Et c'est vrai que ces données, ces nouvelles contraintes, elles concernent aussi bien le droit à l'oubli, le droit bien d'accès sûr aux données personnelles, plus de transparence quelque part pour mettre en avant les conditions contractuelles. Et c'est vrai, vous parlez de données qui gisent quelque part au fond d'un hangar. Je prends un exemple. Et pour bien comprendre la difficulté, peut-être la mission impossible que ça va représenter, justement, si je réclame mes données sur 25 ans à une boîte, je sais pas, un tour opérateur, une compagnie aérienne, une assurance, etc., qui a peut-être changé 1000 fois de système informatique, quelle va être la réponse?
Attendez encore un petit peu, le temps qu'on ait fait le tour de la question, parce que les systèmes de gestion de données sont multiples. Parfois, ils sont legacy, c'est-à-dire ils sont là depuis des dizaines d'années. Plus personne ne sait forcément ce qu'il y a dedans. Et puis parfois, il y a des tas de formats de données, de façons d'interagir. En fait, aujourd'hui, les entreprises sont face à une cette difficulté de mettre d'abord où sont mes données et est-ce qu'elles sont personnelles? Est-ce qu'on peut les suivre? Est-ce qu'on peut effectivement les anonymiser, par exemple?
Jean-Baptiste Souffron, avocat.
Non, mais il y a aussi des situations où, en fait, on peut parfaitement remonter toutes les données sur des années. C'est ce qui se passe quand vous cherchez à savoir quels sont vos points de retraite. Oui. Comme par hasard, oui. On sait depuis des années comment ça marche. Quand les gens ont pensé, depuis le départ, la manière de se connecter, la moyenne ou la longue durée, vos mails. Si vous avez un bon opérateur de mails, aujourd'hui, vous avez tous vos mails depuis des années et des années aussi. Parfois, c'est bien. Et parfois, c'est moins bien.
C'est mal fait.
Et c'est là que le RGPD entre en jeu et permet de régler tout ça. Mais ce qui change, c'est que pour les entreprises qui n'y pensaient pas ou qui n'y faisaient pas attention, là, maintenant, ça va devenir... On va leur imposer de s'y intéresser.
C'est ça, ça va changer. Oui, Caroline Goulard, ce qu'on appelle la cartographie des données, voilà, savoir qui a accès, de quelle manière sont-elles transmissibles, de quelle manière on peut les supprimer à la demande du client, du salarié aussi.
Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans ce dispositif, c'est qu'il remet l'accent sur les utilisateurs finaux, sur les clients, sur les consommateurs. Et ça va obliger toutes les entreprises à se poser la question, mes consommateurs, ils s'intéressent à leurs données, maintenant je ne peux plus faire comme si tout le monde s'en moquait, comme si personne ne lisait les petites lignes. Et donc, je vais être obligée de prévoir les interactions qui vont permettre à mes utilisateurs de regarder qu'est-ce qu'on a comme données sur eux. Et même au-delà, je vais être obligée de me poser la question de savoir est-ce que c'est justifié et comment je vais leur montrer que c'est justifié. Donc, ça va obliger chaque producteur de services, de produits, à faire entrer dans la ligne de compte l'intérêt pour l'utilisateur final de la collecte des données. Et ça, c'est un progrès incroyable, parce que on était quand même assis sur une bombe à retardement, qui est qu'effectivement, dans cette nouvelle économie numérique, une grande partie de la valeur repose sur les données qu'on collecte, sauf que ça se faisait un peu beaucoup dans le dos des utilisateurs finaux, avec de temps en temps des petites éclosions de manifestations de mécontentement, comme quand par exemple Facebook change son règlement sur les données personnelles, ou quand Google change la façon de faire son algorithme. Et donc, comme ça, ponctuellement, on voyait que ça pouvait poser des problèmes, mais globalement, la plupart des gens ne regardaient pas les petites lignes ou cliquaient sur les bannières pour accepter les cookies. Là, ça va remettre l'attention sur le fait qu'on ne peut plus faire comme si les gens n'en ont rien à faire. Il va falloir trouver des propositions de valeur dans les produits et les services dans lesquels c'est du donnant-donnant. Les utilisateurs consentent parce qu'ils y ont un intérêt et les entreprises mettent en place un service qui a un intérêt dans les deux cas, économique et pour l'usage.
Isabelle Falque-Pierrotin, il y a eu trop d'abus dans la collecte, l'utilisation des data. Caroline Goulard, elle parle de progrès. J'ai une carte de fidélité dans une grande compagnie aérienne française. Je réserve en plus un jour un vol, un hôtel, une voiture. Qui est responsable des données en cas de piratage? Tous ces opérateurs vont être obligés de se poser la question, l'agence de location, la compagnie aérienne, l'hôtel, savoir un petit peu. Voilà.
Je crois que ce que vient de dire
Caroline Goulard.
Caroline est extrêmement intéressant. L'idée du RGPD, c'est de remettre l'utilisateur au centre. Ouais. Et au centre d'un écosystème qui est quand même de plus en plus complexe, où interagissent de multiples acteurs qui traitent de la donnée, qui se l'échangent et que l'utilisateur ne connaît pas nécessairement. Et donc, le but du RGPD, c'est d'encapsuler l'ensemble, finalement, de ces acteurs dans un schéma de responsabilité avec un certain nombre d'outils qu'ils doivent déployer et au bénéfice de l'utilisateur, plus de droits. Donc, je crois que c'est quand même intéressant et que l'objectif derrière tout ça, c'est pas simplement, je dirais, de mettre en place un cadre réglementaire plus exigeant. C'est pas ça. L'idée, c'est de faire le pari que, dans le fond, à travers ce nouveau cadre juridique qui répond aux aspirations des consommateurs, dans le fond, on aura plus de confiance et donc plus de business. Donc c'est un pari sur le fait que la sécurisation des données, les droits accrus donnés aux personnes vont finalement permettre de construire une innovation et une croissance qui soient plus durables. Et ça, je crois que c'est un pari qui vient au bon moment. Vous voyez, il vient au bon moment parce qu'on est dans l'ère post-Snowden, parce que les consommateurs sont de plus en plus soucieux, finalement, de qui traite leurs données et comment. Et donc là, on a un cadre juridique global qui répond, finalement, à ces demandes.
Oui, ce que dit Isabelle Falque-Pierrotin, Henri Dagrin, vous êtes le délégué général du CIGREF. Travaillez avec les grandes entreprises, les grandes administrations. Nouvel usage de la data, collecte, usage, plus responsable, plus éthique, plus de confiance, donc au final, plus de business, pour reprendre ce que disait la régulatrice, donc.
C'est ce que l'on peut espérer. D'abord, je ne sais pas si on l'a vraiment précisé, mais il faut que les auditeurs le comprennent bien. On parle des données à caractère personnel. On ne parle pas des masses de données considérables qui sont traitées par les entreprises par ailleurs.
Bien sûr.
Hein, donc, c'est bien une catégorie particulière de données.
Clients et salariés aussi.
Clients, salariés, partenaires, fournisseurs, tout ce qui traite à un moment ou à un autre des données d'une personne. Et nous sommes tous, avant d'être salariés dans une entreprise, travailler dans une administration, nous sommes tous des producteurs, hein, qui des utilisateurs, des citoyens, qui avons des données personnelles et qui sommes conscients que ces données personnelles, jusqu'à maintenant, étaient dans un cadre qui n'était pas particulièrement bien mené.
Avec notre complicité quand même.
Avec notre complicité, bien entendu, nous en sommes tous là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le RGPD va apporter d'abord un cadre, effectivement, qui est plus respectueux des données de chacun, mais également, on va avoir un cadre qui soit européen et qui, a priori, va permettre d'avoir une unification des règles qui s'appliquent sur les données personnelles, déjà sur le territoire de l'Europe. Et puis, ce qu'on peut espérer derrière, et c'est très important pour des entreprises globales, c'est que ce cadre, qui soit plus respectueux des données personnelles des utilisateurs, des clients, eh bien, va pouvoir s'étendre progressivement, imprégner d'autres plaques continentales. C'est tout ce qu'on peut espérer dans les relations qui vont pouvoir s'établir entre l'Europe, les États-Unis, peut-être l'Afrique, la Chine. On peut l'espérer.
Ça, c'est un souhait, évidemment. Reste à savoir si, en effet, on pourra être copié dans le bon sens. Tiens, Maître Souffron, Jean-Baptiste Souffron.
C'est un règlement qui est extrêmement politique, en fait. On arrive quand même à un moment où les questions de données deviennent tellement importantes qu'on a actuellement une enquête aux États-Unis pour savoir si la Russie a utilisé des données pour manipuler les élections de la plus grande puissance mondiale. Et là, on est les seuls, l'Europe est aujourd'hui le seul groupe d'États, à avoir décidé de chercher un régime collectif qu'on a travaillé ensemble avec. Il y a eu des allers-retours, il y a eu des changements d'avis, et puis à la fin, on arrive à quelque chose qui est relativement consensuel et partagé par les citoyens, les entreprises et les administrations pour arriver à quelque chose de solide. A priori, bien sûr, ça va servir de source d'inspiration. Tout le monde, partout dans le monde, actuellement, se demande comment gérer les données. Comment on va traiter ce problème ? C'est vrai ici, chez nous, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Japon, c'est vrai en Russie. Tous ces pays ont les mêmes problèmes que nous, parfois de façon beaucoup plus grave. Et jusqu'à présent, les pays, mais c'est historique, hein, la gestion des données, c'est quelque chose qui a été inventé en France et en Allemagne. Et donc, on avait ce coup d'avance et finalement, on l'a préservé en ayant un effort d'imagination et de travail. Et je trouve ça très bien.
La France montre l'exemple. Isabelle Falque-Pierrotin à la tête de la CNIL.
Alors, je crois qu'il y a aussi une dimension du RGPD qu'il faut mettre en avant. C'est la volonté de l'Europe aussi de récupérer la souveraineté sur ces données.
Enjeu de souveraineté.
Et enjeu de souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'il y a une disposition du RGPD qui est fondamentale, qui consiste à dire, même si un acteur économique n'est pas établi en Europe, dès lors qu'il offre un bien ou un service à destination d'un consommateur ou d'un résident européen, il est soumis à ce fameux RGPD. Et ça, c'est une disposition d'une puissance extrême, puisque ça consiste finalement à soumettre à nos règles, finalement, toute personne qui preste sur le territoire européen.
Concrètement, ce qui signifie que Google, Facebook,
bien
Amazon
sûr.
Vont devoir s'y conformer.
Bien sûr.
Ils vont devoir s'y conformer. Est-ce qu'ils vont coopérer facilement ?
Alors, est-ce qu'ils vont coopérer facilement ? En tout cas, nous allons coopérer plus facilement avec eux, puisque aujourd'hui, lorsque nous avons une procédure à l'encontre de l'un ou de l'autre, en fait, ce sont des procédures nationales qui se juxtaposent.
Oui.
C'est-à-dire, par exemple, vis-à-vis de Google, on a plusieurs autorités européennes qui ont mené des actions contre Google, contre Facebook, contre un certain nombre, mais ce sont des actions qui restent des actions nationales. Demain, avec le RGPD, on a la possibilité, en fait, d'avoir une intégration européenne des régulateurs qui sera beaucoup plus forte, et en fait, la possibilité de co-décider à 28. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas 28 décisions, on aura une décision prise au nom des 28 qui s'appliquera de la même manière dans tous les pays européens. Et ça, je pense que c'est une avancée formidable.
Il y aurait moins de possibilités d'échappatoire de ces gens du web. Quand on parle de fiscalité, par exemple, on sait que c'est extrêmement difficile de leur faire payer leurs impôts. Par exemple, voilà, ils arrivent à se faufiler, très bien. Là, les 28, l'union fait la force, la masse
va les contraindre, c'est ce que vous dites, Isabelle Falque-Pierrotin ?
Bien sûr, notre capacité de négociation avec eux sera renforcée dans la mesure où nous parlerons au nom des 28, et 28, c'est 500 millions de consommateurs.
Juste.
Vous voyez, c'est pas 28 régulateurs, c'est surtout un marché de consommation qui est extrêmement intéressant pour eux.
Jean-Baptiste Souffron.
Mais de toute façon, sur ce sujet, ce qui est intéressant, c'est que au niveau européen, on a peut-être une avancée intellectuelle sur la façon de gérer les données. Bon, mais les business models sont plutôt des business models américains aujourd'hui. Bon, c'est plutôt ça. Mais en fait, ça fait la plupart, beaucoup d'éléments qui sont dans le RGPD sont des éléments qui ont été imaginés par des entreprises américaines. Le droit à la portabilité, le premier à avoir lancé le Data Portability Project, c'était Google. Vous voyez, c'était leur idée de dire vous pouvez télécharger toutes vos données chez nous, les récupérer et en faire ce que vous voulez. Là, le RGPD va plus loin puisqu'il impose à ses opérateurs de les transférer non seulement à l'utilisateur mais éventuellement à d'autres entreprises qui souhaiteraient pouvoir utiliser leurs données de leurs utilisateurs pour quelque chose qu'on voudrait leur confier.
Donc, ils accepteront.
Ça va un grand plan. Écoutez, en tout cas, c'est écrit. Ils vont difficilement pouvoir faire autrement.
Ouais, Caroline Goulard, DataWise.
Oui, justement, c'est intéressant de voir que, effectivement, ce nouveau règlement, il n'est pas forcément destiné à lutter contre les GAFA. Au contraire, c'est peut-être les mieux placés pour s'y conformer. D'une part, parce que ce sont des organisations qui, par nature, dès le début, ont été très orientées données, qui ont construit tout leur business model et toute leur expérience utilisateur sur les données. Aussi parce que ce sont des organisations qui ont été confrontées beaucoup plus tôt à des mouvements de fronde ou de critique par rapport à leur gestion des données personnelles et qui ont donc beaucoup plus tôt développé des systèmes pour répondre aux attentes des utilisateurs. Par exemple, sur Google, vous pouvez télécharger tout votre historique de recherche. Vous pouvez télécharger tout votre historique de recherche et en faire ce que vous voulez. Vous pouvez avoir accès aux données qui sont inférées par Google sur vos préférences en termes de centres d'intérêt et que Google utilise pour faire son ciblage publicitaire. Effectivement, ce sont peut-être des modèles à suivre pour certaines entreprises dans la façon de gérer les données personnelles et d'y donner accès aux utilisateurs. Même en termes de pédagogie, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup d'implémentation de cette nouvelle réglementation en termes techniques ou en termes organisationnels, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place comme process, etc.
Ça, on va reparler évidemment, parce que là, rien n'est simple. Hein.
Mais il y a quand même une question super intéressante qui est, à un moment, il faut que les utilisateurs consentent et donc qu'ils comprennent. Et donc, les entreprises vont avoir le devoir d'expliquer quels sont le traitement des données qui sont opérées. Ça a l'air de rien, mais je vous mets quand même au défi d'expliquer à un grand public composé de tout âge et avec des usages numériques très différents, qu'est-ce qu'on fait de leurs données ? C'est extrêmement abstrait. Et donc ça pose un défi en termes de pédagogie, d'expérience utilisateur qui est fondamental.
Alors, successivement, Henri Dagrin, Le Cigref et Cécile Lepape, Coach Bess, tout le monde prend la parole, ça vous passionne. Allez-y.
Oui, effectivement, la donnée personnelle, quand on parle de Google ou de Facebook, c'est le cœur du cœur de leur activité. Attention, toute l'économie ne tourne pas qu'autour de la donnée personnelle, et de très loin. Même si la donnée sera de plus en plus importante dans toute l'économie, il ne s'agit pas, et il y a des pans entiers de secteurs d'activité qui ne travaillent pas, la donnée sera importante, mais qui ne travaillent pas spécifiquement sur de la donnée personnelle. Si on parle de l'industrie lourde, si on parle du bâtiment, la donnée est importante, mais pas forcément
aussi
directement aussi fondamentale. C'est pas le cœur de l'activité. Donc, il faut raison garder, la donnée personnelle et son traitement n'est pas au cœur de toute l'économie de demain. La donnée est importante, va devenir fondamentale, stratégique pour de nombreux secteurs d'activité, mais pas de manière exclusive la donnée personnelle.
Cécile Lepape.
Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos du GAFA. Je pense que cette réglementation, c'est aussi pour les entreprises françaises et européennes l'occasion d'améliorer leur compétitivité. Par exemple, si je prends Amazon, aujourd'hui, dans le monde du retail français, cette compétition est massive. Et donc, aujourd'hui, toutes les entreprises avec lesquelles je travaille ont besoin de cette transformation digitale et d'avoir l'avantage compétitif. Du coup, avec cette réglementation, ils sont obligés d'aller regarder les données personnelles qu'ils ont et de les valoriser, de mieux connaître leurs utilisateurs et derrière de proposer des services qui vont fidéliser leur clientèle, qui vont créer un contrat de confiance avec.
Prenons un exemple. Je sais que vous travaillez avec un grand retailer français présent dans le monde entier. On va pas donner la marque pour ne pas vous
donner
des notions de confidentialité.
C'est un très
voilà.
Bon exemple.
Qu'est-ce que ça peut apporter justement ce RGPD?
Alors RGPD, c'est le besoin déjà de connaître ces données. Donc peut-être aujourd'hui, chez ce grand retailer, il y a eu au fil des années différents systèmes qui ont été créés de façon complètement silotée. Vous avez bien sûr les magasins physiques, vous avez les sites du e-commerce, vous avez le drive, vous avez les offres de coupons, de fidélité, et chacun de ces services connaissent une fraction de l'information et une fraction des utilisateurs. Avec une plateforme comme la nôtre, on va essayer de consolider ces informations pour pouvoir rapprocher les clients. Déjà, on va les connaître avec une seule identité, au lieu d'être obligé de se loguer avec un email, un numéro de client, un numéro de fidélité. Déjà, on a cette connaissance globale. Et ensuite, on va construire ce qu'on appelle une vision à 360 degrés. Alors, c'est pas tout de suite à 360. Parfois, ça commence à 60 degrés. Et puis, au fur et à mesure, on va injecter les données. Et on va permettre de rapprocher les données. Donc, un exemple très concret. Vous avez une offre de fidélité. Aujourd'hui, on vous pousse des coupons. On ne sait pas très bien qui vous êtes. Et vous recevez les offres de la terre entière. Si on recoupe ces informations avec votre consommation personnelle, on va savoir que vous êtes intolérant au gluten, que vous préférez le bio, que vous aimez une certaine marque. Et donc, on va aussi donner de la valeur à cet investissement et ne plus voir la réglementation seulement comme un coût, mais comme un investissement, et se préoccuper du retour sur investissement pour avoir derrière des services à forte valeur ajoutée et de capter son client et de le fidéliser.
Mais ce qu'il faudra dire aussi, Isabelle Falque-Pirotin ou Jean-Baptiste Souffron, c'est une contrainte peut-être. En effet, on va le voir dans un instant, les entreprises, elles sont en retard, il y a les sanctions qui pèsent sur elles. Mais c'est avant tout une chance, une opportunité, comme l'a démontré tout de suite Cécile Lepape.
Ah mais écoutez, la CNIL a été dans les premières à dire c'est un investissement, le RGPD. Effectivement, il faut respecter des obligations nouvelles, mais je crois que ces obligations nouvelles, elles sont au bénéfice de l'utilisateur final, bien sûr, mais au bénéfice surtout de l'entreprise. Donc je crois que ça, c'est clairement l'objectif qui est recherché par ce texte.
Avec un petit peu d'éthique en plus, Jean-Baptiste Souffrant.
Pas avec un petit peu d'éthique en plus, c'est ça toute la force. C'est que le sujet principal du règlement, c'est l'éthique. Et c'est l'éthique qui va... On part du pari que l'éthique, finalement, quand elle est là, et ben ça sert l'économie aussi. Imaginez, par exemple, qu'il n'y ait pas de code de la route et qu'on ait un marché des voitures, mais tout le monde se ferait des accidents, on se rentrerait sans arrêt dedans les uns les autres, il y aurait des bouchons tout le temps, ça serait n'importe quoi. Ben, c'est la situation actuelle sur les données.
Il y a quand même des bouchons tout le temps. Pardon, je ferme la parole.
Mais ça serait bien pire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous auriez des accidents, vous auriez des problèmes, vous auriez des gens qui seraient gravement atteints sans jamais pouvoir s'en sortir. Là, on pose quelques règles qui ne sont pas si compliquées. On met en place quelques éléments qui permettent de s'organiser, qui vont évoluer, c'est certain. Il est probable que d'ici 5 ans ou 10 ans, on en aura tiré. On aura vu que ce point-là marche un peu mieux que celui-là a besoin d'être renforcé. J'imagine que les sanctions du régulateur viendront souligner tels ou tels aspects en fonction des situations. Et donc, on se donne les bases d'un point de départ pour commencer à structurer notre économie autour des données en se disant on ne veut pas n'importe quelle donnée. Si vous voulez, on peut aussi choisir d'être dans le libre marché le plus total, de céder aux sirènes comme celle de la propriété des données ou ce genre de choses, en se disant que peut-être ça serait une solution, alors qu'en réalité, on va tomber à ce moment-là dans le néolibéralisme le plus crasse et on n'en sortira jamais. Et on arrivera, chacun le coup de rendre les dents, ça sera le Far West.
Alors, Caroline Goulard, Isabelle Falque-Pirotin, allez-y Caroline Goulard, oui, DataWise.
Justement, ce que je trouve très intéressant avec dispositif, c'est qu'il n'est pas dans l'interdiction. C'est-à-dire qu'on a un peu trop tendance aujourd'hui, quand on voit des innovations qui sont un peu dangereuses, on ne sait pas très bien ce que ça va donner.
Ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle Falque-Pirotin, on n'est plus dans l'a priori, voilà. On est dans le a posteriori.
Et donc, plutôt que d'interdire par défaut, et puis on verra plus tard, on va faire des études, et puis etc., on est dans une démarche totalement différente. On dit, ok, faites en sorte de recueillir le consentement des utilisateurs. Faites la preuve. Convainquez les gens que c'est intéressant de le faire, que ça vaut le coup, qu'ils y gagnent autant que vous. Et c'est donc quelque chose de totalement différent parce que ça va varier en fonction des époques. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt à accepter aujourd'hui, sur lesquelles on n'arrivera pas à recueillir le consentement, et ça, c'est susceptible de changer. Donc c'est une réglementation qui est fondamentalement prépare l'avenir. Et c'est vraiment intéressant pour une fois d'avoir ça dans ce sens-là.
Isabelle Falque-Pirotin, présidente de la CNIL.
Oui, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que en fait ce règlement, il a aussi un bénéfice, c'est qu'il remet les acteurs français, les entreprises françaises à égalité de concurrence avec les acteurs internationaux qui aujourd'hui s'affranchissent de nos règles alors que demain, encore une fois, dès lors qu'elles prestent chez nous, elles devront respecter nos règles. Et ça, je crois là aussi que pour les entreprises françaises et européennes, c'est un avantage, entre guillemets, considérable.
Les données européennes, elles seront exportables aux États-Unis facilement ou pas? Il y aura des filtres?
Alors, la réglementation en la matière, pour l'instant, en tous les cas, vu des entreprises, reste encore, je pense, à bâtir. Et il y a des informations qui sont pas complètement... par exemple, prenons l'exemple des États-Unis. Normalement, le territoire des États-Unis peut accueillir des données européennes à travers un dispositif qui s'appelle le Privacy Shield. Néanmoins, la robustesse juridique du Privacy Shield est encore en question. Je crois que la présidente de la CNIL pourra nous le dire, qu'on attend encore des confirmations de la part de l'administration États-Unis sur la robustesse de ce dispositif.
Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est que le G29, qui donc regroupe les 28 CNIL européennes, donc les 28 autorités nationales européennes, en fait, ce groupe a mis à jour ses dispositifs d'encadrement des flux de données à destination des pays tiers pour prendre en compte justement les nouvelles obligations du RGPD. Et donc là, très récemment, on vient de publier les nouveaux référentiels d'adéquation, de BCR, enfin de clauses contractuelles type, qui sont des dispositifs, des outils pour le transfert de données en dehors de l'Europe. Et on a intégré dans ces nouveaux référentiels les nouvelles normes finalement du RGPD. Donc ça veut dire aussi que l'Europe ne se voit pas comme un espace fermé.
Il
est inscrit dans le RGPD l'idée que on va exporter des données et ça fait partie de la société et de l'économie numérique.
D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà une quarantaine de pays qui ont des accords avec l'Europe, avec l'Union européenne, un petit peu moins une trentaine, qui sont déjà qui offrent déjà des dispositifs juridiques qui sont conformes aux prescriptions du RGPD.
Un mot, Cécile Lepape, avant qu'on voit comment les entreprises doivent s'équiper et pourquoi pour l'instant elles sont en retard. Allez-y.
Juste un mot pour rebondir sur cet exemple du code de la route. Je pense qu'il est parfait pour cette réglementation parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le code de la route a été inventé pour accompagner l'accroissement du trafic routier, pour éviter les accidents et s'assurer qu'au fur et à mesure qu'il y allait avoir des gens avec des automobiles sur la route, eh bien, tout se passe pour le mieux.
Idem pour les data.
Exactement. Mmh. C'est un système d'information où les données aujourd'hui doivent être libérées, pas bunkerisées. Et le règlement est là pour accompagner cet accroissement de business.
Bon, restez avec nous. Le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, s'est mis en place dans... appliqué. C'est déjà mis en place. Enfin, en tout cas, il faut l'appliquer maintenant. 25 mai, dans 100 jours, dans 3 mois. Est-ce que le plus dur n'est pas à faire, justement? À tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données. Oui, ça fait peur à certaines entreprises, les plus petites, peut-être les moins équipées, justement. Oui, règlement européen, principe européen qui repose, sur le droit fondamental pour tout Européen à la protection de sa vie privée et de ses données, justement. Nouveau règlement qui va s'appliquer à partir du 25 mai, dans 3 mois, dans 100 jours exactement. Voilà. Et les entreprises, ça fait 2 ans qu'on en parle. Les entreprises ne sont-elles pas en retard? Isabelle Falque-Pierrotin, à la tête de la CNIL, le régulateur, justement, a l'impression que tout s'accélère et qu'on est loin d'être prêt. Est-ce que vous avez un pourcentage ou pas des entreprises prêtes et pas prêtes?
Non, on a effectivement un certain nombre d'études qui disent que 30, 40%, je dirais, des entreprises seraient complètement prêtes. Mais je dirais que le débat, il n'est pas là. Le 25 mai, il ne va pas y avoir une sorte de couperet qui va arriver sur les entreprises et puis une pluie de sanctions qui serait...
On va les rappeler, vous nous les donniez tout à l'heure, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial, 20 millions d'euros. Que va-t-il se passer le 25 mai? Est-ce que vous allez sortir votre martinet, Isabelle Falque-Pierrotin?
Alors, je crois qu'il faut distinguer le 25 mai entre des principes qui existent depuis 20 ans et qui sont confirmés par le règlement. Vous voyez, par exemple, le principe de finalité, c'est-à-dire vous faites un fichier ou un traitement pour un but particulier. Si vous ne le respectez pas, vous êtes en infraction. Ça, cette infraction, elle existe avant le 25 mai, elle va exister après. En revanche, pour ce qui est de nouveau, c'est-à-dire des nouveaux principes ou des nouveaux droits, comme ce droit à la portabilité dont on parlait il y a un instant, ou des nouveaux outils qui doivent être déployés au sein des entreprises, comme les DPO, comme délégués à la protection des données, voilà, ou bien l'étude d'impact, là, le régulateur que nous sommes sera beaucoup plus indulgent, parce que Le but, c'est pas de sanctionner, c'est de faire en sorte que ces outils et ces droits soient effectivement déployés au sein des entreprises. Donc, dans un premier temps, notre posture sera une posture d'accompagnement, d'explication, de fourniture de services. On fait ça depuis 2 ans, on va continuer à le faire après le 25 mai 2018.
Et spécialement pour vis-à-vis des PME, Isabelle Kefalque-Pirotin, est-ce que vous allez les regarder d'un peu plus près? Quand je dis les regarder, accompagner d'un peu plus près. On va parler dans un instant des grosses boîtes, bien entendu. Les grosses boîtes, elles savent faire et puis elles ont des bons conseillers. Mais les PME, qui ont déjà du mal à faire leur propre transformation numérique, on leur parle de RGPD, mais c'est de l'afghan pour elles. Hein.
Bien sûr, les PME sont dans une situation qui est effectivement assez difficile pour elles. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de nous associer avec la BPI, la Banque Publique d'Investissement, pour en fait sortir à leur intention un guide spécifique pour elles, qui, décode ce RGPD, cible les éléments les plus saillants pour elles et leur permette, si vous voulez, de se lancer dans ce RGPD. Donc là, je pense qu'avec ce kit de survie, d'une certaine manière, elles pourront affronter ce nouveau texte.
Cécile Lepape, directrice... Allez-y.
Excusez-moi. Et ce guide sera disponible à partir du mois de mars.
À partir du mois de mars, donc très rapidement, dans quelques jours. Cécile Lepape, directrice technique de Coachbase. Donc, vous accompagnez d'ores et déjà... des grandes boîtes, hein. On parlait d'un célèbre retailer français présent dans le monde entier, La Poste, Criteo. Criteo, ça les concerne, parce que là, il y a de la collecte de data, évidemment, c'est pour de l'affinage publicitaire. Le Roi Merlin aussi. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises que vous accompagnez? Comment, justement, elles se mettent à niveau concrètement? C'est quoi la vie de ces boîtes depuis que vous leur parlez de RGPD?
Comme je le disais au tout début de cette émission, la première des initiatives qu'elles ont, c'est déjà de déterminer quelles sont les données qu'elles stockent, donc dans Coachbase en particulier. Ensuite, d'être accompagnées, puisqu'elles ont les moyens, en tout cas, sur toutes les bonnes pratiques de sécurité, sur tous les outils qu'on leur met à la disposition, pour identifier déjà les périmètres pour lesquels le logiciel qu'on fournit fournit les bons outils, les périmètres qui sortent de ce scope-là, que ce soit le réseau, le disque, les responsabilités collectives et individuelles des intervenants. Et puis ensuite, derrière, eh bien, on va les aider à mettre en pratique ces outils-là. Et puis derrière, on va aussi s'assurer qu'on a tout un des outils d'alerting, de monitoring, de surveillance de ces données pour voir comment elles vont pouvoir d'ailleurs suivre la vie de ces informations. Donc c'est un suivi technique point par point avec chaque équipe, chaque projet.
Et ça incombe à qui à l'intérieur d'une entreprise de mettre en place ce RGPD?
Alors, c'est la difficulté, parfois, c'est pas forcément avec les équipes qu'on rencontre, mais c'est la prise de conscience globale.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est une, comme tous les aspects de sécurité, c'est pas uniquement une réponse technique qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que le Data Protection Officer, il est là aussi pour ça.
Alors oui, c'est quoi ce délégué à la protection des données personnelles? Pardon, je vous redonne la parole dans un instant, Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, mais ça c'est une obligation. Isabelle Falque-Pierrotin, c'est obligatoire, c'est qui? Il va faire quoi ce monsieur ou cette dame, peu importe.
Alors, c'est un personnage absolument central.
Ouais.
C'est celui ou celle qui portera la gouvernance interne des données au sein d'une entreprise. Alors, la question est de savoir qui est cette personne.
Ouais. Comment on le recrute? Il a quoi comme profil?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la protection des données change de niveau au sein des entreprises. Jusqu'à présent, dans le fond, la protection des données, elle était assurée par le département juridique de l'entreprise. En fait, compte tenu du nouveau texte, l'enjeu devient un enjeu, si vous voulez, absolument transversal qui, en fait, doit remonter au niveau de la direction générale. Alors, ça ne veut pas dire que le délégué à la protection des données est le directeur général, bien sûr que non. Mais ça veut dire que cette personne, elle doit avoir un positionnement interne qui lui permet d'avoir une vision un peu panoramique des données et d'être capable, finalement, de piloter un plan interne de gouvernance des données en accord avec le RGPD. Donc ça veut dire que c'est une fonction qui devient très importante et qui, certainement, pose des questions d'articulation avec les DSI, les directions de la conformité interne dans les grandes entreprises, etc.
Et donc, les RH,
cette question de la gouvernance des données, c'est une question qui devient absolument centrale.
Ah oui, dans les entreprises, c'est vrai que la RGPD, elle va impacter un certain nombre de services, de responsables, les RH, les services généraux, la direction juridique, la direction générale, la direction financière, la direction, les DSI. Hein. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, le club informatique des grandes entreprises françaises.
Alors, les grandes entreprises françaises, je vais répondre à deux, trois interrogations qui viennent de pointer. Les grandes entreprises françaises à travers le CIGREF, ont décidé, il y a maintenant un peu plus de près de 2 ans, hein, c'était au mois de mai-juin 2016, de travailler pour accompagner l'ensemble des entreprises dans leur réflexion sur la façon dont il fallait intégrer le RGPD dans les entreprises. C'est pour ça que on a créé un groupe de travail assez intéressant, d'abord avec 2 autres associations, l'Association française des auditeurs informatiques et Tech in France, qui représente les éditeurs de logiciels, c'est-à-dire les fournisseurs de solutions numériques pour les entreprises. Et également avec 4 grands cabinets d'avocats comme De Gaulle Florence Associé, Auguste de Bouzy, qui nous ont accompagnés dans ce travail d'élaboration d'un référentiel, mais qui aujourd'hui est disponible. Ce référentiel, ces bonnes questions à se poser, il y a une 50aine de questions qui permettent d'évaluer sa maturité vis-à-vis du RGPD, est disponible pour l'ensemble des entreprises et chacun peut aller télécharger ce rapport aujourd'hui qui est disponible en ligne et qui permettra à tout type d'entreprise, mais également à des administrations publiques, de vérifier quelle est leur maturité et de vérifier également que leurs systèmes d'information sont conformes.
Mais juste le fameux délégué à la protection des données personnelles, je reviens sur cette notion importante sur laquelle insistait la présidente de la CNIL il y a un instant. Il va être obligatoire dans un certain cadre, il aura un rôle très important, vous nous l'avez dit. Apparemment, des entreprises en cherchent, mais ne trouvent pas. Il n'y a pas assez de gens formés, vrai ou faux?
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème, notamment pour les entreprises les plus importantes, une vraie difficulté de formation. Mais ce problème va être rapidement réglé. Par exemple, l'Institut Minitelecom ParisTech a mis en place un master spécialisé pour former les DPO de demain. Et le CIGREF a été associé à la création de ce master spécialisé.
Jean-Baptiste Souffron, avocat du cabinet FWPA.
Non, mais finalement, ça fait des années que tout le monde conseille aux entreprises d'avoir des correspondants informatique et liberté. C'est tellement avantageux, il y a moins de formalisme, il y a moins de procédures, c'est plus simple. Mais c'est quelque chose qui était difficile à faire passer, voire même qui était parfois mal compris par les interlocuteurs. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit, mais un correspondant, mais c'est lui qui va échanger les courriers avec la CNIL. Et vraiment, on avait un niveau d'incompréhension qui était évident. Donc là, on prend un peu les choses en main et on dit, attendez, les données, c'est important, vous devez avoir un responsable données. Je pense qu'en 2018... demander à des entreprises d'avoir un responsable données, quand on utilise des données au quotidien, c'est quand même la moindre des choses. Et sur la formation, alors là, c'est un message à passer à tous les jeunes étudiants, etc. Des délégués à la protection des données, on en demande de partout. Moi, je voyais l'excellent master de droit du numérique, par exemple, de Paris 1 récemment. C'est un accélérateur de carrière en ce moment. Génial.
Donc, il y a du boulot.
Dans une position transversale au niveau de la direction générale de l'entreprise. Dans les PME, vous êtes au cœur du business. C'est vraiment super. Et vous pouvez venir du juridique ou du technique.
Alors, Henri Dagra et Caroline Goulard.
Et puis attention, dans les grandes entreprises, il n'y aura pas un DPO. Mais il y en aura 20, 30 qui seront par business unit.
Dans une PME, il y aura un DPO, il y aura un délégué à la protection des données personnelles.
Dans une PME, moins de 250 salariés, l'obligation n'est pas faite d'avoir un DPO. Non. En tous les cas, la mise en œuvre des bonnes pratiques est obligatoire.
Est obligatoire.
Hein, mais le dispositif organisationnel, lui, n'est pas obligatoire pour les PME.
Caroline Goulard, DataWise.
Et justement, pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de trouver ce profil-là? Justement parce qu'il va être à la croisée de différents métiers. C'est pas uniquement un profil technique, c'est pas uniquement un profil juridique, c'est pas uniquement un profil produit, et c'est pas juste un profil de direction générale. Et ce que ça illustre bien, c'est que justement ce règlement, il a l'intérêt de mettre l'accent sur quelque chose qu'on n'a pas eu besoin de ce règlement sur les données personnelles pour faire passer le message. Il faut décloisonner ce sujet des données. Ça ne peut pas marcher si le sujet des données s'est pris en otage, entre guillemets, par les services DSI, ou alors s'est pris en otage par le service juridique, parce que ça cloisonne l'entreprise à faire un usage relativement pauvre de ces données, alors que sa capacité d'innovation et de croissance, elle va dépendre de sa capacité à irriguer toute son organisation avec les données.
Henri Dagrin.
Oui, c'est parfaitement. Ce qui est bien clair, c'est que la mise en œuvre du RGPD, c'est d'abord un projet d'entreprise, et que le DPO lui-même va intervenir avec les directions juridiques, la direction des systèmes d'information, les directions métiers et les directions financières, les directions RH, donc avec tout le monde.
Mais Caroline Goulard.
Pour continuer là-dessus, c'est cette problématique d'avoir des profils qui sont cross-sectoriels, qui sont cross-compétences pour travailler avec les données, c'est pas uniquement le problème du RGPD, c'est globalement le problème d'aujourd'hui avec les métiers des données. C'est que pour faire des choses intéressantes, enrichissantes et économiquement qui ont du sens, Il faut des profils qui
pour la transformation numérique aussi.
Le design, la technique, le droit, le produit.
Juste, on le disait, c'est Maître Souffron qui disait, oui, il y a des postes à pourvoir dans les délégués à la protection des données personnelles. Parce que, voilà, ça va embaucher, on a besoin de monde. Chez vous, à la CNIL, quand même, j'ai l'impression quand même qu'on va beaucoup vous solliciter. Je prends un autre exemple. L'autre devoir des entreprises, ce sera de déclarer à la CNIL systématiquement toute violation des données. Si un commercial se fait piquer dans sa voiture, par exemple, eh bien, son PC où il y a les données clients, il va devoir vous contacter. Il va falloir répondre à cette demande. Vous avez du monde ou pas?
Aujourd'hui, la CNIL, c'est 17 millions d'euros, 200 personnes.
200 personnes.
La plupart des organisations comparables à la nôtre, l'Allemagne,
700, le UK, 500.
Voilà. Donc vous avez les chiffres.
Ouais.
Vous savez qu'en gros, c'est le double
de
la CNIL.
Et alors ?
Donc on a demandé des moyens supplémentaires à nos autorités de tutelle. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été entendus. Mais peut-être que le RGPD va faire que ce message va effectivement, je dirais, porter. En tout cas, je pense que il est clair qu'on n'a pas à la CNIL aujourd'hui exactement les ressources, je dirais, au bon niveau, à la bonne voilure correspondant au saut que représente le RGPD.
Allez-y, Jean-Baptiste Souffron.
En fait, de toute façon, cette question va devenir tellement importante qu'on ne peut pas imaginer que les moyens ne soient pas alloués à un ou à un autre. Je vais vous donner un exemple.
Ça dépend de qui, ça? C'est qui votre tutelle, vous, la CNIL?
Alors, c'est une autorité administrative indépendante, mais dont le budget est rattaché au service du Premier ministre.
C'est le Premier ministre, allez-y.
Imaginez aujourd'hui que vous êtes investisseur, VC, que vous êtes un fonds d'investissement et vous avez devant vous une start-up. Franchement, cette start-up, bon, à 99,99% des situations, elle va utiliser des données. Et là, vous allez vous demander, je vais mettre 1 million, 10 millions, peut-être 250 millions d'euros dans cette société. Et je suis pas sûr que les données sont correctement gérées. Je suis pas sûr que ces gens vont pas finir un jour par faire n'importe quoi avec les données, que en fait, ce qu'ils font est vraiment éthique et va pas poser un gros problème d'ici 2 ou 3 ans. Évidemment, maintenant, c'est des questions que tout le monde commence à se poser. Les fonds...
Faudra montrer patte blanche, quoi.
Les fonds, les investisseurs, tout le monde veut être rassuré. Et pour être rassuré, il va falloir de la jurisprudence. La jurisprudence au sens soft law. Il va falloir être capable d'expliquer, qu'on décrypte. Et pour décrypter, il va falloir du monde. Donc, je ne peux pas imaginer que le régulateur sur ce sujet ne devienne pas plus important.
Se retrouve un petit peu... Juste rassuré. C'est vrai que profitant de cette urgence, profitant du manque de préparation, certains poussent à utiliser des services dans l'urgence. Essayer de convaincre les entreprises. Allez-y. Voir recours à des tentatives d'extorsion en lien avec cette RGPD. Vous avez tiré le signal d'alarme à la CNIL, justement.
Alors, on a tiré le signal d'alarme, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait à la CNIL toute une série d'outils mis à disposition du grand public et des entreprises pour justement maîtriser le RGPD, adopter les différents outils, et que ces outils sont disponibles auprès du régulateur.
Il y a beaucoup de tentatives d'escroquerie aussi, des gens qui vont voir les entreprises pour leur vendre.
Je ne saurais pas vous répondre, en tout cas qualifier l'importance de cette menace.
Hélas, si ça doit arriver, ça sera plutôt les petites entreprises qui feront les frais, que les grandes entreprises.
Un mot, Caroline Goulard.
En tout cas, l'enjeu pour une entreprise, c'est bien d'internaliser cette problématique. On ne peut pas régler ce genre de problèmes qui sont fondamentaux pour son propre business model en l'externalisant auprès de consultants. Il faut intégrer la capacité à traiter ces données.
Mais il faut se méfier de toute façon des gens qui arrivent de façon hystérisante sur ce sujet. La première chose, le premier message à faire passer aux patrons de PME, aux patrons de TPE, c'est d'être un peu rassuré. Jusqu'à présent, les données, ils n'ont jamais été en prison parce qu'ils utilisaient mal les données de leurs entreprises. Donc ce n'est pas demain que ça va arriver. Le temps, ça va aller, ils seront accompagnés. On va juste leur demander de s'y intéresser un peu plus et c'est normal.
Et au final, nos données, elles sont enfin protégées. L'utilisation de ces données, enfin protégées pour de bon grâce à ce RGPD, Caroline Goulard.
Tout dépend ce qu'on arrive à mettre en place. Ce qui est important, c'est que ça implique pour tout le monde de s'y intéresser et de faire l'effort de s'y former.
Un mot, Henri Dagrin.
Oui, c'est un peu comme le code de la route. Il y aura toujours des accidents.
Cécile,
le RGPD, c'est une opportunité, un investissement.
Maître Souffron.
De toute façon, ça doit servir à créer de la valeur pour la plupart des entreprises.
Oui, ça facilite le business, ça encourage le business, nous disait tout à l'heure Isabelle Falque-Pierrotin.
C'est une opportunité pour l'Europe.
Très bien, merci à tous. Voilà l'Europe qui récupère ses données. Vous l'avez tous dit, Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL. Merci Caroline Goulard, présidente de DataWise. L'avocat Jean-Baptiste Souffron, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Cécile Lepape, directrice technique de CoachBest, qui accompagne donc un certain nombre de grands clients dans cette RGPD. Et Henri Dagrin, délégué général du Club informatique des grandes entreprises françaises, le CIGREF. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite, évidemment.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. AI may be the most important new computer technology ever, but AI needs a lot of processing speed, and that gets expensive fast. Upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is the single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. Do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic. Take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. Oracle.com/insightful.